Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour, Cannes a débuté et nous n'y sommes pas. Nous sommes dans les studios pour vous présenter l'émission Cinérama avec aujourd'hui, eh bien, comme la semaine dernière, une interview, celle de Philippe Lespinas pour un documentaire André et les Martiens, mais il y aura aussi des chroniques. Bonjour Marine.
Oui, bonjour à tous. Moi, je vous parle justement de deux films qui ont été présentés à Cannes. Une très bonne surprise, The Nice Guys, et une déception, le nouveau Almodovar, Julieta.
Et puis toi Manu, aussi un film de Cannes.
Deux films, puisqu'il y a le Café Society de Woody Allen qui était présenté hors compétition et le nouveau film de Bruno Dumont, Maloute.
Et il restera, si nous avons du temps, et bien aussi un autre film présenté hors compétition, c'est Money Monster de Jodie Foster. Mais nous débutons avec le film français.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Après le succès surprise et mérité de Petit Quinquin, conçu sous forme de mini-série en 4 épisodes, Bruno Dumont poursuit donc avec Maloute l'exploration singulière d'une veine comique qui n'a nulle équivalence dans l'Hexagone, du moins actuellement, si l'on en juge par toutes les comédies qui sortent. Alors en effet, Maloute détonne, irrite et fascine, mais ne peut en aucun cas laisser indifférent, ce qui est le cas de toute façon de tous les films de l'auteur, même hors comédie, de La vie de Jésus à Hors Satan. Alors l'action se déroule en 1910 dans le nord de la France, évidemment, dans la baie de la Slack. Je ne sais pas si vous connaissez, mais
non.
Moi non plus. J'ai appris un peu de géographie. Alors la région est victime de mystérieuses disparitions. Pas de corps, pas de victimes, contrairement au Petit Quinquin où on retrouvait les corps à l'intérieur de vaches dépecées. Alors tout un programme. Alors sans dévoiler l'intrigue, qui n'est au fond qu'un prétexte, puisque le poteau rose est mis sur la table, c'est un peu cas de le dire, au bout de 30 minutes, avec une scène super gore, aussi repoussante que surprenante. Alors toujours comme dans la série devenue culte, comme dans Petit Quinquin, deux inspecteurs complètement loufoques mènent l'enquête, l'énorme Machin et son acolyte Malfoy, qui cherchent à dénouer de bien étranges manières le fil de l'enquête. Alors ils sont un peu les témoins, ou plutôt les spectateurs, d'une autre histoire singulière d'amour entre Billy, à l'identité sexuelle ambiguë, issu d'une famille de bourgeois dégénérés, et Maloute, fils aîné d'une famille de pêcheurs d'huîtres, rappelant lointainement, et réellement, le clan de Félé qui sévissait dans Massacre à la tronçonneuse. Alors pas besoin d'être un grand détective pour deviner de quoi il en retourne, mais au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Quel bonheur à chaque fois de retourner sur cette côte! Oui, regardez là-bas, ces cueilleurs de moules!
Qu'est-ce que ça pue cette carriole?
Oh, comme c'est pittoresque!
La glycine! Elle a pris 2 mètres!
Tout pousse, André, tout pousse!
Et mon petit frère, comment va-t-il? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais!
Pourtant, vous venez tous les ans!
Et toi, tu t'appelles comment?
Maloute!
Maloute?
Qu'est-ce à dire, Maloute?
Je sais pas, madame, c'est comme ça que je m'appelle.
C'est ici que cette personne aurait disparu, chef.
Ça commence à sortir le roussi, là, hein?
Bon, les personnes ont disparu dans la baie?
C'est terrifiant, André!
Il y a rien à craindre, enfin! Allons, la police est à pied d'œuvre maintenant!
Hé là! T'as trouvé quelque chose?
Sans cadavre!
Tu n'as pas peur de disparaître?
Tu nous protégerais, n'est-ce pas, Maloute?
Où les cœurs?
Je comprends rien, là.
Des gens bizarres.
Un doigt de Wissoki? Et hop là!
Une lymphomane, une nudiste, et des disparus.
Maloute!
Maloute!
Alors après ses premiers films, austères mais d'une puissance rare, Bruno Dumont découvre l'absurde, le non-sens et semble y prendre un plaisir communicatif en dépit des excès et débordements risquant de faire grincer des dents plus d'un spectateur. Alors, car premier malaise, il n'hésite pas, on va dire, à ridiculiser d'une certaine manière son trio d'acteurs professionnels représentant bien sûr la classe bourgeoise. Alors leur jeu excentrique et en sur-régime alors dépasse les limites du bon goût au point de nous interroger sur ce qu'est une performance. Alors passer peut-être une gêne certaine, pour peu qu'on accepte le dispositif grotesque de ce petit théâtre de l'absurde, on rit vraiment, certes souvent on dépend des personnages, mais Fabrice Luchini, Juliette Binoche et surtout l'irrésistible Valeria Bruni-Tedeschi se sont rarement mis autant en danger. Alors en face, les acteurs non professionnels et du cru, évidemment, incarnent les pauvres. Alors à travers ce dispositif un peu tordu, Dumont parle aussi de cinéma, de la place un peu ridicule qu'occupent les stars de cinéma dans notre société. Bref, il prend le risque de se faire haïr par ses pairs, mais il n'épargne personne ou presque. La misanthropie réelle du réalisateur est tempérée par de brusques trouées d'air, des bulles d'émotion terrassant de beauté entre Billy et Malout, magnifiées par une mise en scène inspirée et ample. Alors Malout n'est pas non plus un film politique, hein. La lutte des classes n'intéresse pas Dumont. Il a même tendance à renvoyer pauvres et riches dos à dos à leur propre existence minable. Il s'intéresse à la transgression, aux individus comme Billy qui savent s'échapper de leur attitude conventionnelle, de la posture grossière de leur éducation. Alors, la drôlerie de cette farce loufoque, hein, puis sans complexe, moi je trouve dans les premiers cartoons, la bande dessinée aussi, genre les Péniclés ou encore les premiers Hergé, le style visuel emprunte à la ligne claire et l'irrésistible duo de flics n'est pas sans évoquer les Dupont et Dupont. Mmh. À la fois novateur et archaïque, foutraque et exigeant, limpide et expérimental, Malout mélange les genres avec un aplomb rare, passant du non-sens au film d'horreur, en passant par le drame passionnel, le conte mystique et même le fantastique, on va dire, un peu enfantin. Alors, si vous aimez les univers excentrique et libre, Alfred Jarry, Tati, Buñuel, même Bécassine, Ionesco. Alors ruez-vous sur Malout, film français le plus excitant et audacieux pour moi depuis Réalité de Quentin Dupieux. Enfin, c'est quand même une expérience assez,
effectivement, un film
assez
très,
étrange.
Un film très singulier et puis aussi avec une bande-son alors, qui est plutôt empruntée à Tati hein, d'ailleurs, parce que notamment, alors il y a beaucoup de petits sons qui apparaissent, qui normalement qu'on n'entend pas au cinéma, mais là il en fait, il en fait des tonnes avec ça, notamment le gros inspecteur qui n'arrête pas de faire du bruit en marchant, comme si c'était une grosse baudruche, un gros ballon de baudruche, voilà. Je ne sais pas si tu as noté ça.
Si, si. Voilà. Non, mais il y a toujours un travail sur le son, mais c'est récurrent chez Bruno Dumont, c'est-à-dire que finalement dans la comédie, il est d'un point de vue formel, aussi exigeant que sur ces films, on va dire, les plus sérieux. Et non, c'est un film que je trouve complètement étonnant.
Et puis après, le rapport, effectivement, entre ces grands acteurs et puis ceux qui ne sont absolument pas acteurs, c'est aussi intéressant. Alors, Lucchini, lui, s'est penché là-dessus. Hein. Il disait que, bon, il ne savait pas trop quoi faire là-dedans, que ça l'avait assez déstabilisé, finalement, de tourner avec du
monde. Même le spectateur, ça nous déstabilise au départ.
Il n'a pas forcément le même jeu. En plus, au début, la première séquence et les séquences suivantes, enfin, c'est assez étrange. Un peu déstabilisant, effectivement.
Et je le voyais dans la salle, hein, puisque c'était un public qui venait très âgé, qui venait certainement pour le kiné. Et j'ai vu beaucoup de gens sortir de la salle. Hein.
J'en ai vu aussi.
Mais quelle honte!
Voilà, donc c'est Malout, c'est en compétition au Festival de Cannes.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Julieta? Mia. No me lo puedo creer, Julieta? Madre mía, qué sorpresa!
Ah, sacré Pedro, il nous a encore pondu une bonne comédie, hein, je vais vous le dire, on s'est marré pendant 2 heures. Dans Julieta, Almodovar explore à nouveau, et c'est peut-être la fois de trop, la thématique du secret familial. Alors dès le premier instant et un long plan sur les plis d'une robe rouge, on plonge dans l'intimité de Julieta, professeur de philosophie d'une quarantaine d'années qui s'apprête à quitter Madrid. Mais sa rencontre fortuite avec l'ancienne meilleure amie de sa fille lui fait renoncer à ses projets. Elle décide de rester et d'écrire à sa fille qu'elle n'a pas revue depuis des années pour lui expliquer les raisons de son silence. Alors après un retour à la légèreté de ses débuts dans Les Amants passagers, après un détour par le thriller très réussi dans La pielle qui habite où, Almodovar, ou plutôt Almodóvar comme il faut le dire, revient à ce qui fait la quintessence de son style. Le drame, le vrai, période tout sur ma mère ou parle avec elle. Présenté à Cannes cette année, le film a été encensé par la critique française qui lui attribue déjà la Palme d'Or. Auquel cas, eh bien cela constituerait un hommage plutôt à l'ensemble de la carrière du cinéaste madrilène plutôt qu'une récompense puisque Julieta est clairement une œuvre mineure dans sa filmographie. On pourrait même clairement trouver que le réalisateur se répète, qu'il est à court d'inspiration puisque malgré une trame rondement menée et un sens aigu de la photographie, peu d'idées de mise en scène surgissent. Ce drame est largement surjoué au point parfois qu'il nous semble même être devant une parodie finalement de ce que Almodovar a fait de mieux. Alors on retrouve vraiment tout ce qui fait son style, son goût des couleurs, des vêtements, la musique tragique omniprésente, des actrices très cinégéniques, extrêmement bien filmées. Malheureusement, ce Julieta nous laisse sur notre faim. Le film apparaît comme banal venant d'un réalisateur capable du meilleur, sans finesse ni subtilité, et à défaut de parvenir à rendre hommage au mélodrame hollywoodien des années 50, comme il le fait souvent, Almodovar donne à son film des airs de télé-novelas outrés, par moments involontairement comiques. Alors on cherche la flamboyance d'antan sans parvenir à la retrouver. D'ailleurs, Rossi de Palma, ancienne égérie du cinéaste dans ses comédies les plus outrancières, interprète ici une vieille servante, acariâtre et austère, comme pour nous rappeler que la movida, eh bien, c'est fini et qu'il faut dorénavant s'attendre à un cinéma définitivement assagi, voire ennuyeux. Voilà, Julieta, ça a été une énorme déception pour moi. Je me suis ennuyée totalement pendant 2 heures. C'est banal, c'est complaisant, c'est surfait. Ça sort cette semaine. Et puis, on se retrouvera d'ici 10 jours pour savoir s'il a eu la Palme d'Or.
Avec son comique involontaire.
Ouais. Complètement, complètement.
Un autre film présenté à Cannes, c'est le Woody Allen.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, New York et Hollywood, les années 30, le jazz, une histoire d'amour entre un jeune homme, Bobby, souhaitant percer dans le ciné, et une secrétaire, Vonnie, maîtresse de l'oncle de Bobby, producteur qui l'engage comme coursier. Alors, rajoutons une famille juive modeste, un frère truand notoire, éliminant tous les obstacles sur son passage, une sœur qui a épousé un communiste, et des parents qui se chamaillent sans arrêt. Shabadabada. La rengaine est connue, rien de neuf sous l'œil amusé et nostalgique de l'univers bien huilé du nouveau Woody Allen, encensé aussi par la presse, étonnamment. Comparé au précédent, l'homme irrationnel qui me semblait quand même supérieur.
Phil, c'est Rose.
Rose ?
Ta sœur. Mon fils, il s'en va à Hollywood. Lui, c'est un monsieur qui dîne avec Fred Astaire et Gary Cooper.
Très impressionné. Bonjour. Entre. Chaise. Tu vois, Ben, il n'y en a que pour l'ego. Cette ville carbure à l'ego.
Moi, c'est Bobby.
Bonnie, voulez-vous venir ? Vonnie, je vous présente mon neveu, Bobby.
Bienvenue à Hollywood.
Alors, mon gars, tu t'ennuies déjà ?
À moitié fasciné, à moitié mort d'ennui.
Est-ce qu'il y a plus de jolies filles à Hollywood ou à New York ?
Pourquoi ? C'est comme ça que vous déciderez où habiter ?
L'amour est une émotion et les émotions n'ont rien de rationnel. Nous tombons amoureux. Je dis bien tombons. Mmh. Nous perdons pied.
C'est bien ou pas ?
Une absence de réponse, c'est déjà une réponse. Ah. Socrate a déclaré qu'une vie sans introspection ne vaut d'être vécue. Mais la vie avec introspection, c'est pas du gâteau non plus. Bien sûr.
La vie est une comédie, écrite par un scénariste comico sadique.
Alors, Café Society incarne bon goût, érigé au rang d'art majeur. Alors, rien ne vient gripper la mécanique superbement agencée. Les acteurs sont au top, l'écriture acérée, les dialogues fusent et font mouche. La caméra mobile et fluide s'offre de beaux travelling d'une folle élégance. Les décors sont nickel et la lumière signée Vittorio Storaro, qui, je le rappelle, n'est autre que le chef-op d'Apocalypse Now, du Parrain et du Dernier Tango à Paris, est évidemment divine. Alors, on est vraiment au centre d'un cinéma haute couture où rien ne dépasse, où tout est parfaitement orchestré au millimètre près. Woody Allen est tellement à l'aise, filme son petit monde avec une telle facilité que cela en devient agaçant car il manque à Café Society une vibration, une émotion pour accéder à ce qu'il aurait certainement souhaité, hein, un grand film d'amour comme Two Lovers ou In the Mood for Love, pour citer quelques classiques instantanés. Alors car au fond, c'est un peu sur ce terrain que le cinéaste de Annie Hall tente de se frayer un chemin, trouver un souffle romanesque, dévastateur mais intérieur, tout en subtilité. Or, le film me paraît figé, sa virtuosité tourne à vide. Il y a bien sûr de belles scènes dans Café Society, comme la première rencontre entre les deux jeunes tourtereaux. La maladresse de Bobby est touchante et la grâce de la silhouette de Vonnie émeut. Alors, il faut dire aussi que Jesse Eisenberg et Kristen Stewart sont magnifiques et justifient à eux seuls l'intérêt de ce Woody Allen très mineur, à mon sens, trop propre pour être honnête, vitrine parfaite pour ouvrir le Festival de Cannes en hors compétition. Enfin, pas d'un grand bien fait, mais pas d'un grand intérêt.
Mmh. Mais tu sais, la critique, hein, souvent aime Woody Allen.
Oui, enfin, ils y vont les yeux fermés. Hein, oui. alors que sur 60 films, il y en a certainement 30 de très bons. Et après, c'est généralement inégal. Hein.
Et pour le distributeur, c'est généralement jackpot. Parce qu'il y a beaucoup de public qui s'y rend.
Ça marche à tous les coups. Ouais. Oui.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Et c'est l'interview de cette émission, celle de Philippe Lespinasse, le réalisateur de André et les Martiens. Montrer l'art brut avec ceux qui font l'art brut sans se dire qu'ils en font vraiment, qu'ils le font par nécessité, en toute indépendance des courants de l'art contemporain. Eh bien, c'est le projet de Philippe Lespinasse qui a suivi plusieurs artistes, dont André Robillard. André est un personnage étrange. Il est interné depuis l'âge de 9 ans et conçoit des fusils qui ne tuent pas. C'est son truc, hein, le fusil. Il en a fait des milliers et ils sont tous quasiment en bois. Voilà, après il ajoute des choses, il fait son petit business. On voit aussi un artiste qui réalise des œuvres avec des coquillages. Son maître à lui, eh bien, c'est Michel-Ange. On voit un Québécois qui construit des cabanes autour des arbres en utilisant des chutes de cordes agricoles et des planches. Mais il fait des cabanes à 3 étages, hein, c'est pas rien. Et puis, il y a aussi un Français qui réalise des objets à vent, sorte d'éoliennes multicolores, mais pas que. Et puis, ça se termine par une Américaine qui crée inlassablement des œuvres à partir de pelotes de laine. Ce film, ce documentaire dure 1h06, c'est limpide, attachant, éclairant, drôle. On écoute Philippe Despinasse en parler.
Toi, André, t'as fait des grands voyages, t'es allé même sur la planète Mars.
Oui, j'étais sur la planète Mars à 600 millions de kilomètres de la Terre.
Bon, ça fait près de 20 ans que je travaille pour des musées. À côté de mon travail pour la télévision, je travaille pour des musées, en particulier un musée qui est à Lausanne, qui s'appelle la collection de l'art brut, pour lequel j'ai réalisé une trentaine de films. Et je me suis demandé ce qui reliait finalement ces auteurs entre eux. Est-ce qu'il y avait quelque chose en commun, avec l'idée d'essayer d'inventer un chemin un peu subjectif, un peu personnel peut-être, qui faisait qu'on aurait pu mettre ensemble certains de ces auteurs en considérant qu'ils étaient caractéristiques. Bon. Donc j'ai trouvé cette idée d'un passeur dans la personne d'André Robillard, qui donne son titre au film, André et les Martiens. Et André Robillard, c'est le passeur historique. Il a connu Jean Dubuffet, il crée depuis plus de 70 ans, il est toujours vivant, bon pied, bon œil, extrêmement éloquent, et on a toujours plaisir à le retrouver dans le film, qui est monté comme une sorte de feuilleton. Et à travers cette figure tutélaire de l'art brut dans ce film, on se permet d'aller en visiter quelques autres, avec cette gradation, on peut dire, entre les premiers auteurs qui sont d'un abord un peu facile, un peu facétieux, un peu humoristique, un peu singulier, bizarre, tordu, jusqu'à une forme d'art brut plus hermétique dans la personne de Judith Scott, qui, elle, n'est pas dotée de paroles et communique, mais pas de la manière dont on communique habituellement. Il me semble qu'au bout d'une heure, le spectateur, il est dans une disposition d'esprit favorable pour accepter ce que je lui montre d'un art brut extrême.
André, c'est Dubuffet, là-bas ?
Ou non ?
Là-bas.
Ah oui, c'est Jean Dubuffet, ça. Oh là là, c'est lui.
C'est lui qui a inventé l'art brut ? C'est quoi tu...
Ben, c'est lui qui a pu commencer à connaître, à finir l'art brut, à connaître l'art brut, oui. A donné un nom à la question de l'art brut. Ça devait se passer en France, mais après, ça s'est trouvé en Suisse, le musée de l'art brut.
Moi, j'avais besoin que ces auteurs puissent s'exprimer d'eux-mêmes, au risque de laisser quelques trous, quelques espaces, quelques clairières dans lesquelles l'imaginaire du spectateur pouvait s'engouffrer.
Il tire ce fusil ? Non, il tire pas.
Ah non, ils sont inoffensifs, ces fusils-là, non.
Toi, tu...
Je fais des œuvres, c'est pour exposer dans les musées, moi, ou les collectionneurs qui me l'achètent. Voilà comment ça se force. Depuis que j'ai commencé, d'ailleurs. Il n'y a pas de changement maintenant. C'est ma technique dans ma vie que j'ai. Qui n'a jamais bougé.
On entend à un moment André dire, ah ben voilà, il y a des collectionneurs d'art brut. Mais vous avez volontairement, alors là, complètement oublié tout cet aspect, alors qu'on reconnaît dans l'art contemporain, cette marchandisation à outrance. Là, l'art brut, on n'en sait rien, finalement. On ne sait pas ce que deviennent les œuvres. Alors si, celui qui fait des moulins à vent et ainsi de suite, lui, on a l'impression qu'il ne vend rien et qu'il tient à accumuler. Mais voilà, vous avez aussi voulu complètement laisser de côté cet aspect, l'aspect marchand.
L'aspect marchand, il existe. Il n'est pas si important que ça, il n'est pas si prévalent que ça en matière d'art brut. Il fera l'objet d'un autre film que je suis en train de monter. Qui décide, qui évalue, qui spécule, qui collectionne, qui fait monter les enchères, qui est qualifié pour décider que telle œuvre ou telle œuvre va mériter de faire partie d'une collection. Ça fera l'objet d'un film qui est en tournage et en montage en même temps, qui va sortir en septembre. l'art brut dans le marché de l'art est quand même marginal. Il y a quelques collectionneurs, quelques spéculateurs, quelques musées qui ont ouvert, notamment à Montpellier, je crois, dans quelques jours. Mais on est loin de Jeff Koons et Damien Hirst. On est loin de l'art mondialisé spéculatif. Quelques auteurs d'art brut sont vendus, mais un milliardaire qui débarquerait aujourd'hui dans l'art brut, il pourrait tout rafler facilement, puisque ce ne sont pas quand même des œuvres très très chères. André Robillard continue de vendre ses fusils 50 € ou deux poulets rôtis ou une cartouche de cigarette. Enfin, on est dans ces échelles-là. Mais par ailleurs, ils n'ont pas, dans un premier temps, il faut bien préciser, la plupart du temps, ils ne se voient pas comme des artistes, ils ne désirent pas vendre. Comment vendrait-on ses enfants ou ses rêves, finalement, les auteurs d'art brut vis-à-vis de leur travail? Ils sont souvent dans cette relation-là. Mais ils peuvent aussi en demander plusieurs milliards d'euros, ou rien.
Tu en as fait combien de fusils en tout depuis le début, tu penses?
Oh là, j'en ai fait plus de 100, hein. Ah oui, plus de 100.
Depuis que tu as commencé?
Depuis que j'ai commencé en mars 64, oui. Oh là là.
Oh ben, largement plus de 100.
Oh oui, oh, certainement, oui. Plus de 100 depuis des années qu'on pensait, oui, il y a eu certainement quelques...
Plutôt des milliers que des centaines.
Ah oui, 100, voyons. On est compte, rien que déjà ce qu'il y a là sur la table, on est compte, on est compté à fur et à mesure. Hein.
Alors André Robillard ne fait pas que montrer ses œuvres, il joue aussi de l'accordéon, il joue de l'harmonica, enfin voilà, il fait tout un tas de petites choses. Personnage attachant, de toute façon, tous les artistes qu'on voit ici dans ce film sont attachants. C'est réalisé alors très simplement, Philippe Lespinas intervient, c'est-à-dire qu'il pose des questions, il aide même... André Robillard a réalisé ses œuvres parce qu'il a une manière très particulière aussi d'organiser son travail. Il n'a pas vraiment d'établi alors qu'il doit tout le temps scier des objets. Voilà. On part vers aussi des artistes qui sont assez étonnants et qui sont assez mutiques, comme le Québécois là, qui fait ses cabanes comme s'il faisait du land art en fait. Enfin, voilà, c'est très intéressant, c'est très condensé. Alors, sur la question, je ne l'ai peut-être pas gardé d'ailleurs pour l'interview, mais sur pourquoi il a pris si peu d'artistes, pour lui, ça convenait. Le chemin qu'il a fait pour les spectateurs, de partir avec des artistes comme André Robillard, qui sont assez faciles d'accès pour arriver jusqu'à un artiste, une artiste, en l'occurrence une femme qui, elle, ne parle pas et est dans un centre enfermé depuis de longues années. Il trouvait que le cheminement pour comprendre ce que pouvait être l'art brut était suffisant. Ça durait 1h06. Voilà. Donc, si vous rentrez dans la salle, eh bien, ça vous prendra à peu près 1h10. On va passer maintenant à un autre film présenté à Cannes hors compétition. Et c'est l'occasion d'écouter un peu de musique.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça. This rock I got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling really got a hold. I started searching for a better way. And I kept on looking for a sign in the middle of the night. But I couldn't see the light. No, I couldn't see the light.
Et on passe donc à The Nice Guys. Fin des années 70, à Beverly Hills, deux détectives privés plus ou moins doués dans leur domaine se retrouvent contraints de faire équipe afin de retrouver la mystérieuse Emilia. Fille rebelle d'une haute figure de la justice de Los Angeles, elle a tourné dans un film porno activiste dont tous les participants se font descendre les uns après les autres, ce qui ne laisse rien présager de bon quant à sa survie. Commence alors pour Ryan Gosling et Russell Crowe, alias Holland March et Jackson Haley, une plongée dans les quartiers huppés et dangereux de Los Angeles. Naturellement, ces nice guys n'ont de gentil que le nom, et armés d'un sens de la déontologie très approximative, de leur penchant pour la picole et de méthodes de travail peu orthodoxes, ils vont tenter de résoudre cette affaire. Alors, The Nice Guys est assez symptomatique de la fascination du cinéma américain contemporain pour ses propres années 70, dans la lignée, entre autres, d'American Bluff. Néanmoins, le réalisateur Shane Black traite cette époque de façon assez subtile, sans fascination outrancière, en rappelant, entre autres, eh bien, que les obsessions américaines étaient finalement les mêmes qu'aujourd'hui, à savoir la pollution et la dépravation de la jeunesse. Ce qui ne l'empêche pas, évidemment, de s'en donner à cœur joie en termes de reconstitution, notamment lors de scènes de fêtes gigantesques sur fond de disco peuplé de créatures à paillettes. Commande de cette enquête déjantée, on retrouve donc Shane Black, réalisateur de Kiss Kiss Bang Bang, dont le style ici est bien reconnaissable. Hein. Même humour noir, même humour décalé associé à une intrigue policière loufoque et à des personnages presque burlesques. Shane Black, qui a pratiquement inventé le buddy movie policier, puisqu'il a notamment écrit L'Arme Fatale, nous resserre la même recette sans nous laisser pour autant un goût de déjà-vu. L'intrigue est un peu confuse, certes. Le film tire sans doute inutilement en longueur, mais n'oublie jamais d'être drôle, et ce grâce à un Ryan Gosling qui nous sert un numéro comique inédit et de grande qualité. Alors pour moi, c'est une redécouverte totale de l'acteur qui s'était enterré dans des personnages taiseux, cool, mais sinistres, hein, faut bien le dire. Ryan Gosling, il avait en quelque sorte atteint un niveau de jeu clairement lassant. Et le voilà qui revient là avec un rôle extrêmement drôle. C'est vraiment lui qui porte le film et il y joue l'abruti mais avec une classe absolue et beaucoup de talent. Et le reste du casting est à l'avenant. Il y a entre autres Kim Basinger et donc Russell Crowe dont j'ai parlé. C'est globalement une très bonne comédie d'action comme on aimerait en voir plus souvent. C'est vraiment une bonne surprise. Moi en tout cas je n'en attendais rien. Et d'ailleurs Shane Black dont c'est le second film... En tant que réalisateur.
Troisième.
Pardon, je suis désolée.
Troisième, tu as oublié Iron Man 3.
Qu'il avait signé, en effet. Parce que son pote Robert Downey Jr. lui a proposé de le réaliser. Parce que c'est lui qui avait relancé sa carrière avec Kiss Kiss Bang Bang.
D'ailleurs, j'avais trouvé que c'était plutôt une réussite, l'Iron Man 3. Et puis avant ça, après donc, L'Arme Fatale, Shane Black, il avait donc signé le scénario du Predator de John McTiernan en 87.
Dans lequel il joue. Où il meurt en premier.
Et apparemment, il va réaliser
le reboot.
Et puis, il est aussi scénariste d'un excellent film d'action des années 90, hein, que j'aime particulièrement, hein, qui était signé Tony Scott. C'était Le Dernier Samaritain avec Bruce Willis, qui est vraiment, on va dire, l'archétype même du buddy movie cool et assez violent, avec tous ces dialogues assez percutants. Enfin, moi, je trouve que c'est un excellent film et c'est un très bon scénariste surtout, plus que cinéaste, hein, je pense.
Alors il y a aussi, enfin c'est pour ça qu'on a passé ces musiques, hein, parce qu'il faut le comprendre, c'est que c'est dans la bande originale, qui est une bande originale, alors avec quand même des morceaux connus, il y a Cool and the Gang, enfin c'est une espèce de visite un peu du disco, hein, c'est ça grosso modo.
Oui, c'est parce qu'en fait il y a une scène particulièrement de soirée qui dure très longtemps et qui est très drôle et très bien filmée, très bien mise en scène dans le film, où en fait il y a Cool and the Gang eux-mêmes qui viennent chanter, enfin qui sont là, voilà, dans
sont
la villa... Ils sont censés être morts, mais pas à cette époque, ça se passe dans les années 70, Manu. Et donc voilà, ils viennent sur les collines de Beverly Hills, dans la villa d'un producteur porno. Ils sont là et ils chantent, voilà. Mmh. Bah après, la bande-son est facile, mais en même temps, oui. Je pense que quand on vient voir un film comme ça, c'est aussi ce qu'on a envie d'entendre, parce que justement, ça... Comment dire, ça érige en année paradisiaque ces années 70, un petit peu comme un paradis perdu. Donc clairement, le spectateur a envie d'entendre ces musiques connues, écoutées, réécoutées.
Il y a un petit côté nostalgique.
Ça. Exactement.
Effectivement. Qui rend tout de suite familier avec l'œuvre qu'on est en train de voir.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Et du coup, eh bien, on gardera Money Monster de Jodie Foster présenté à Cannes pour la semaine prochaine. Il y aura aussi Men and Chicken. Et puis
Boulevard.
Ouais.
Et X-Men.
Mais très peu de films, hein, finalement. Hein. C'est
on aura plein de choses à dire quand même la semaine prochaine.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.